judaïsme pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bentoussa au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, la neuroplasticité cérébrale. Avec Christian Xéry. L'enseignement de la biologie s'est longtemps appuyé sur une interprétation assez figée de la physiologie nerveuse. Stricte localisation des fonctions cérébrales, arrêt précoce de la production de cellules nerveuses, enfin perte irréversible de fonctions en cas de dégénérescence des neurones ou de traumatisme des zones concernées. Ces certitudes bien ancrées sont remises en cause aujourd'hui, et d'ailleurs depuis de bonnes décennies, par le concept de neuroplasticité cérébrale. Le développement de la biologie moléculaire autour de la génétique a privilégié la question de savoir comment les gènes déterminent tous les niveaux d'organisation du vivant, d'une part, l'interprétation de l'apprentissage comme stabilisateur par le milieu des voies les plus utilisées avec élimination des autres, d'autre part, et là on fait référence à un certain darwinisme neuronal, donc on bouleversait l'approche que l'on faisait du cerveau et de ses capacités. Je citerai ici pour illustrer une phrase de François Jacob: l'être humain est génétiquement programmé, mais programmé pour apprendre. Eh bien, ce soir précisément, nous allons apprendre. Merci Christian Xéry d'être avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je vais d'ailleurs te présenter immédiatement. Alors, après des études de maîtrise et en psychologie et en neurosciences, tu obtiens un doctorat de troisième cycle en neurosciences à Pise en 1981. Et pourquoi Pise? Parce que c'est auprès d'un éminent professeur. À partir de 1982, tu es chargé de recherche au CNRS à l'Université de Provence. En 1989, tu passes une thèse d'état en sciences naturelles, substrat neurodon des processus de substitution sensorielle. 91-92, tu es chargé de recherche et professeur assistant à l'Université de Californie, San Francisco, pendant laquelle d'ailleurs tu deviens directeur de recherche. À partir de 92, tu travailles à l'UMR 61-49 de l'Université de Provence et tu en es aujourd'hui le directeur. Du 17 au 21 février dernier, a eu lieu à la faculté Saint-Charles une exposition dont le thème était « Art, science du cerveau ». Et les concepteurs et réalisateurs étaient Christian Xéry, qui est avec nous ce soir, et son fils Yuri, qui est graphiste et art-thérapeute. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai eu la chance de connaître Christian. Et j'espère d'ailleurs que l'an prochain, je pourrai peut-être recevoir aussi ton fils. Voilà. Alors, nous allons commencer, Christian, si tu veux bien. Et pour commencer, pour que nos auditeurs puissent vraiment rentrer dans le sujet, il serait peut-être bien que tu nous fasses un petit rappel de l'organisation et du fonctionnement du cerveau. Je sais qu'il y en aurait pour des mois, mais juste quelque chose, quelques éléments de base servant à bien comprendre la notion de neuroplasticité.
Merci de m'avoir invité, tout d'abord. Et effectivement, le thème de la neuroplasticité cérébrale, c'est un thème qui, pour moi, est extrêmement important, puisqu'il a motivé toute mon activité de recherche depuis mon intégration comme étudiant, d'abord doctorant, dans un laboratoire de Marseille. Alors, ce que je ferais peut-être, c'est de situer la neuroplasticité avant de parler même de l'organisation du cerveau, mais tu vas voir que tout ça, c'est lié. Resituer ça dans une perspective historique. Il est toujours intéressant de localiser, et c'est à dessein que j'utilise ce terme, les concepts et les idées et leur évolution dans un cheminement historique. Et à ce titre, on ne peut pas dissocier notre compréhension de ce qu'est la neuroplasticité de l'évolution des idées sur le fonctionnement cérébral, le fonctionnement du cerveau. Et ça nous renvoie, sans remonter jusque aux anciens hébreux ou à des civilisations très très anciennes qui se sont interrogées sur le fonctionnement du cerveau, on va prendre des jalons qui sont par exemple la phrénologie. La phrénologie, en 1820, c'est Franz Joseph Gall, qui est un neurologue, qui défend l'idée selon laquelle les fonctions dans le cerveau sont extrêmement localisées de façon très stricte. Alors c'est quelqu'un qui procède par palpation du crâne d'un certain nombre de criminels et de déviants et qui pense pouvoir identifier des invariants sous forme de creux quand les fonctions sont déficientes ou au contraire de bosses quand les fonctions sont exacerbées, et il arrive à une sorte de typologie, une sorte de localisation géographique sur le cerveau où il repère 27 aires fonctionnelles où sont localisées des fonctions intellectuelles et morales. Le sens de la famille, l'agressivité, le sentiment religieux, l'estime de soi, plein de choses comme ça, qui à cette époque ont eu un grand retentissement, notamment avec son élève Spurzheim, qui a été un disciple zélé et qui a promu cette théorie de la phrénologie. De manière intéressante, il s'agissait d'une époque où les débats d'idées étaient extrêmement vivants. Pierre-Marie Flourens, qui est lui un expérimentateur, il procède de manière rigoureuse par des ablations sur les oiseaux, chez le chien par exemple. Il observe le comportement des animaux et ses conclusions sont totalement opposées à celles de Gall, et lui prétend que le cerveau fonctionne comme un tout indifférencié, hein. Et donc c'est on va dire que dans le camp des globalistes, qui prône une sorte d'équipotentialité cérébrale, toutes les régions sont impliquées de la même manière dans les différentes fonctions, c'est celui qui est le porte-bannière de cette conception du fonctionnement cérébral. Ce qui est intéressant, c'est que avec le développement des techniques, des méthodes d'expérimentation de plus en plus rigoureuses, de plus en plus fines, on découvre des zones très spécialisées dans le cerveau, la zone du langage avec Broca par exemple, les régions motrices avec Fritz et d'autres, et finalement on s'achemine vers une idée selon laquelle c'est sans doute Gall qui avait raison, à savoir que le cerveau, il est composé d'un ensemble de régions, chacune spécialisée dans une fonction donnée. Seulement, même si les tenants de la théorie localisationniste avaient raison, d'une certaine manière, ils étaient confrontés à une énigme importante, à savoir comment rendre compte des phénomènes de récupération fonctionnelle en cas d'atteinte cérébrale. Ça ne collait pas avec leur conception du fonctionnement du cerveau. Au contraire, ceux qui avaient tort, on va dire, comme Flourens et les tenants de la thèse de globaliste, eux étaient tout à fait à l'aise en disant « Regardez pour nous, ce qui compte, et ça donnait lieu à une théorie qu'on appelait la théorie de l'action de masse, ce qui est important, c'est la quantité de tissu cérébral qui est touché par la lésion, c'est elle qui va déterminer la sévérité des déficits. » Plus cette quantité de tissu cérébral est importante, plus les déficits seront sévères, moins la récupération fonctionnelle sera facile, mais si on atteint une limite de perte neuronale, la récupération n'est plus possible. Mais en deçà de cette limite, la récupération va se manifester.
On ne faisait donc pas de relation entre une zone traumatisée et une perte de fonction particulière.
Non, pas chez les globalistes. Mmh. Encore que l'on pourrait nuancer ce propos, parce que Florence s'est intéressée au fonctionnement du cervelet et du cortex cérébral, et ses positions étaient un peu plus nuancées donc, que des positions strictes de globalistes. Alors, encore une fois, ce clivage d'idées antagonistes, ceux qui avaient raison sur la localisation avaient tort, dans la mesure où ils étaient incapables d'expliquer la récupération fonctionnelle. Ceux qui avaient tort sur le fonctionnement d'un cerveau normal se sentaient parfaitement à l'aise pour expliquer les phénomènes de récupération. C'est donc par une évolution conciliatoire entre ces deux points de vue assez rigide finalement, que la vérité se situait, la vérité se situe toujours au milieu, comme on le sait bien. À partir de ces observations, localisation de plus en plus avérée par les évolutions, les progrès de l'expérimentation chez l'animal, chez l'homme, d'autre part une reconnaissance de plus en plus évidente et largement documentée de phénomènes de récupération fonctionnelle, à partir de la mise en perspective de l'ensemble des données disponibles, eh bien, on a évolué vers une conception d'un fonctionnement du cerveau certes spécialisé, mais également très dynamique, organisé de façon odologique comme un ensemble fonctionnant comme un tout, mais un tout relativement différencié. Et c'est donc dans cette conception du fonctionnement cérébral, d'un cerveau dynamique, qu'a émergé la notion de neuroplasticité, qui renvoie à une propriété du système nerveux, qui est cette capacité à remodeler sa structure, à modifier son fonctionnement en vue de sous-tendre des apprentissages qui sont si importants au cours du développement chez l'enfant, et puis ensuite chez l'individu mature, et même au cours du vieillissement. Les apprentissages sont le lot de tous les individus qui sont en interaction avec leur milieu, avec leurs semblables. Et donc, cette neuroplasticité est évidemment, comme je le rappelais tout à l'heure, très impliquée dans les phénomènes de récupération fonctionnelle.
Bien. Ce concept de neuroplasticité, cette façon nouvelle de voir les choses, ça date de quand ? Et est-ce que c'est en relation avec certaines découvertes comme l'imagerie, etc. Ou bien non, c'est les idées qui ont évolué ?
Bien avant, je pense qu'on peut, peut-être avant de constater que le concept de neuroplasticité est vraiment au centre des préoccupations des neuroscientifiques, des neurobiologistes, il faut évoquer Ramón y Cajal, qui était un très grand neuroanatomiste qui a réalisé des prouesses avec un simple microscope optique dans la description qu'il a fournie du tissu nerveux. La difficulté que rencontrait lorsqu'on examine les choses d'un point de vue historique, c'est que Ramón y Cajal a posé un dogme. Il a dit, hormis au-delà des périodes de développement durant lesquelles la neuroplasticité est extrêmement développé, chez l'adulte, dans le cerveau mature, eh bien, les choses sont rigidifiées. Il n'y a plus de possibilité d'établir de nouvelles connexions entre neurones, une des propriétés de la neuroplasticité, ou de modifier même l'efficacité des circuits. En tout cas, c'est une idée qu'il a mis en avant, c'était dans les années 1900-1920. Ramón y Cajal, c'était voilà, en 1910-1920. Il avait une intuition différente avant 1920, selon laquelle si des apprentissages pouvaient se mettre en place et que la structure nerveuse elle-même pouvait en rendre compte, c'est-à-dire pouvait manifester un certain degré de réorganisation anatomique. Mais cette intuition extrêmement importante, eh bien, pour des raisons que l'on ignore, a été remisée. Et ce qui est le dogme qui a été posé est celui d'une rigidité du fonctionnement cérébral chez l'adulte. Ce qui a eu pour conséquence que des chercheurs plusieurs générations de chercheurs, dont je fais partie également, ont pu observer des phénomènes qui n'étaient pas conformes aux dogmes et qui ont donc ignoré leurs observations en se disant finalement, c'est sans doute un biais expérimental. C'est quelque chose qui ne mérite même pas d'être mentionné. Alors ça, évidemment, ça nous renvoie à un certain conformisme, hein, peut-être, dans la manière de conduire son travail de recherche. Des gens plus audacieux, intellectuellement, ont, par la suite, notamment dans les années 80, montré, apporté la démonstration qu'il existe une plasticité encore importante dans le cerveau de l'individu mature, de l'individu adulte.
Ce que tu viens d'exprimer, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui se renouvelle souvent dans l'étude des sciences. Il y a la semaine dernière encore, on parlait de protéines et il y a eu un phénomène, mon invité expliquait un phénomène comme ça où il y avait un dogme sur les protéines et puis des gens ont trouvé des choses mais n'en ont même pas parlé parce que de toute façon ça aurait été rejeté immédiatement et pourtant ils avaient raison. Mais c'était un peu ce que tu dis aussi, hein,
ouais, c'est, tout à fait.
Voilà. Bon, alors il y a quand même des questions qui se posent. Bon, je ne fais que dire des choses que j'ai lues. Hein. Je ne suis pas un spécialiste comme toi, mais j'attends que tu me corriges. J'ai lu que dès le très jeune âge, donc la production des cellules nerveuses s'arrête, des neurones, et que on perd environ, est-ce que c'est un vrai chiffre ou un faux, c'est une lecture que j'ai faite sur Internet, on perd environ 100 000 neurones par jour. Bon, vu le nombre de, je crois qu'il y a des billions de neurones, je ne sais pas exactement combien.
100 milliards, on estime 100 milliards de neurones dans le cerveau.
Ça semble être un nombre, pas bien grand, cette perte, mais tout de même, elle ne s'accompagne pas, en tout cas sur une grande partie de la vie d'un homme, de perte de fonction. Alors, ça fait penser tout de suite que, ces neurones perdus, mais il y a autre chose qui remplace, quoi. Non ?
Alors, il faut replacer ce phénomène dans une perspective développementale. C'est-à-dire qu'effectivement, la production de neurones et la transformation de la morphologie de neurones sous forme d'un développement de l'arborisation, c'est-à-dire des petites élongations qui partent du corps cellulaire du neurone, des somas, et qui vont établir des contacts avec des neurones voisins, connaît cette structure cérébrale, se développe énormément, le nombre de neurones aussi, pendant les premières années de la vie. Et ensuite, on peut dire vers environ 5 ans, on atteint le nombre maximal de neurones et de densité en connectivité. Ensuite, ce qui se passe, c'est un phénomène important de délagage sélectif. Alors, la première étape d'hyper-connectivité a pour effet que les structures dans le cerveau sont redondantes, sont très étroitement reliées les unes aux autres. Graduellement, à mesure que les apprentissages se développent, d'ailleurs, eh bien, on a une spécialisation fonctionnelle qui s'opère. Par exemple, les aires cérébrales qui sont impliquées dans le langage vont, alors qu'elles étaient localisées dans les deux hémisphères gauche et droit initialement, vont se localiser principalement, préférentiellement, dans l'hémisphère gauche. Et on a donc, dans ce phénomène de spécialisation, de manière sous-jacente, une élimination d'un certain nombre de voies qui étaient redondantes. Seules sont stabilisées des connexions efficaces. Celles qui ne le sont pas sont éliminées, c'est ce que tu évoquais en introduction, et donc c'est le phénomène de stabilisation sélective qui a été mis en avant par Jean-Pierre Changeux, professeur au Collège de France, en évoquant le darwinisme neuronal, c'est-à-dire il y a une sorte de compétition au terme de laquelle eh bien, certaines connexions sont maintenues, d'autres sont absolument éliminées parce qu'inutiles. La perte, donc 100 milliards de neurones dans le cerveau, environ 1000 à 10 000 synapses, connexions synaptiques par neurone, c'est énorme. On imagine le maillage, le plan de connectivité énorme, extrêmement dense que ça représente. Au pic de la perte de synapses, eh bien, on arrive à 100 000 synapses par heure.
Par heure.
Au pic de la perte de synapse. Donc c'est dire que le phénomène d'élagage, il est énorme. Il est énorme. Donc il y a une connectivité complètement surnuméraire, inutile, et on apprend en éliminant, contrairement à ce qu'on imagine, du point de vue neurobiologique, dans la mise en place des circuits, eh bien, c'est, on apprend en éliminant. C'est parce qu'on a éliminé qu'on apprend, en fait. Oui. Alors que intuitivement, on considère que apprendre, c'est au contraire.
Augmenter, bien sûr.
C'est tout de même ce qui... C'est pas complètement faux, c'est pas une notion complètement fausse. Lorsque l'on effectue des apprentissages, notamment chez l'adulte, on va renforcer certains circuits, certaines connexions vont se renforcer et faciliter les apprentissages. Les circuits nerveux vont devenir plus efficaces pour répondre justement aux nécessités des apprentissages. Et on aurait bien donc un gain en efficacité là. Hein. Néanmoins, au cours du développement, dans la formation même des circuits nerveux, le cerveau procède par élimination. Et cette élimination, elle est guidée par l'expérience. Ce n'est pas un phénomène qui se manifeste comme ça en autarcie totale. C'est l'expérience du sujet à ses interactions avec le milieu, que ce soit le milieu physique ou le milieu social, oui. Les parents, les amis, ce sont ces interactions-là, cette expérience née des interactions sujet-environnement qui vont moduler complètement la structure du cerveau. C'est ainsi que des privations sensorielles importantes, notamment des relations maternelles chez le jeune enfant, vont avoir pour conséquence des effets extrêmement délétères, des atrophies cérébrales, des retards dans le développement. Chez l'adulte, le phénomène, il est certainement moins sensible, mais il continue de se manifester.
Mais à l'inverse, pour des gens qui ont perdu un sens, comme les sourds, par exemple, ou les aveugles, ils ont d'autres sens qui deviennent plus pointus. Et ça, c'est encore une adaptation, un peu comme ce que tu dis.
Oui, c'est une adaptation, c'est un résultat de la plasticité. Un aveugle va davantage s'appuyer sur d'autres sens, comme l'audition, pour le repérage proche ou à distance, ou le toucher. Prolongé par le bras, prolongé par la canne, par exemple, pour se repérer dans l'espace proche. Et ces sens-là vont effectivement devenir beaucoup plus aigus et prendre beaucoup plus d'importance dans la vie de la personne qui est malvoyante. Et ça se traduit dans le cerveau par des ressources neuronales qui sont beaucoup plus développées, c'est-à-dire des réseaux qui s'étendent, qui s'élargissent, qui recrutent plus de neurones pour traiter ces informations qui sont particulièrement pertinentes. Ceci dit, il est intéressant de constater que chez les personnes qui sont aveugles de naissance, les régions visuelles du cortex, loin d'être silencieuses, répondent à des stimulations tactiles, par exemple.
Ah, tactiles, d'accord.
Alors, quand j'y réponds à des stimulations tactiles, j'introduis une nuance. Si on stimule un nerf cutané, on ne pourra pas constater d'activation chez ces sujets, d'activation dans les aires visuelles.
Alors,
ça veut dire que, quand, par exemple, le sujet est en train d'effectuer une lecture braille, on pourrait penser qu'il, d'une certaine manière, qu'il se représente visuellement les choses parce que son cortex visuel est actif. En réalité, ça passe par d'autres aires, les aires somesthésiques qui traitent les informations cutanées, qui elles-mêmes établissent des liens avec le cortex visuel. Et donc, on a un recrutement de ces neurones qui sont dans le cortex visuel pour cette tâche qui est une tâche cognitive assez élaborée, la lecture braille.
Alors, tu me disais que le cerveau a une représentation de tout le corps.
Oui.
Et il y a le cas du violoniste, que tu parles parce que c'est intéressant.
Alors ça, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé dans les années 80, 90. Au moment où j'ai rédigé ma thèse d'état que tu as évoquée tout à l'heure, j'ai découvert à cette occasion les travaux de Michael Merzenich en Californie, qui a été le premier dans les années 80 à démontrer que les aires du cortex qui représentent l'enveloppe cutanée corporelle, ces aires-là se remanient en fait, se reconfigurent, s'étendent ou au contraire se rétrécissent selon que le sujet, l'animal en l'occurrence, le singe, stimule telle ou telle partie du corps. Si par exemple l'animal utilise beaucoup son doigt dans une tâche de dextérité manuelle pour récupérer une petite boulette de nourriture, eh bien la représentation dans le cerveau de ces régions cutanées hyper stimulées va s'élargir va s'étendre. Et il avait observé également que chez des animaux qui avaient par exemple des lésions de nerfs ou une amputation, la zone temporairement silencieuse dans la région du cerveau qui normalement traite ces informations-là, eh bien, en quelques jours, en quelques semaines, devenait à nouveau active et traitait des informations provenant des régions de la main adjacente. Donc, le remaniement de cette géographie corticale a été la démonstration flagrante, apportant du même coup un démenti à l'absence de plasticité dans le cerveau adulte, a été la démonstration flagrante que le cerveau doit être conçu comme une entité dynamique en constant remaniement et que ces changements-là sont induits par l'expérience. Donc ça donnait lieu à tout un ensemble de recherches extrêmement, un domaine de recherche extrêmement fertile, et les gens commençaient à s'intéresser à ce qui pouvait se passer dans les aires visuelles, dans les aires auditives, etc. Alors que cette question-là avait été négligée en raison du fameux dogme qui a lourdement pesé sur l'évolution des recherches dans ce domaine.
On fait une petite pause musicale ?
Oui.
Thank you.
êtes à l'écoute de Judaïsme Pluriel et je vous rappelle que ce soir, avec Christian Xéry, nous parlons de neuroplasticité cérébrale. Christian, c'est toi qui as choisi cette pause musicale. Alors dis-nous ce que tu as choisi, pourquoi ?
Alors d'abord, je dirais que je suis un adepte du silence. Ce qui peut surprendre, évidemment, paraître même totalement contradictoire. Mais je ne peux pas travailler en musique, par exemple.
Ah, bon.
Sauf. En écoutant ce type de musique, comme celle de Schubert, la truite, qui à mes yeux, j'ai dit à mes yeux, c'est pas vrai, c'est à mes oreilles, représente quelque chose qui est à la fois léger, c'est une musique qui a une certaine vivacité, qui donne aussi l'impression d'une simplicité dans sa structuration. Je pense que c'est une fausse simplicité. Mais ça me va bien parce que esthétiquement, je suis plutôt minimaliste. Et c'est une musique qui est légère, qui coule bien, qui s'égrène avec un certain rythme, qui a une forme de vivacité, en même temps un petit fond de nostalgie. Et j'aime bien ce mélange. Je trouve que c'est un mélange subtil et qui est totalement harmonieux à mes oreilles.
Et si j'ai bien compris, qui ne requiert pas une grande mobilisation, qui coule tout.
Voilà, et ça a plutôt un effet apaisant. J'avoue que je pourrais l'écouter avec une certaine attention, mais même si je ne l'écoute pas avec une certaine attention, j'ai l'impression que cette musique produit un certain effet. Je l'apprécie pour ça, et je l'écoute assez souvent.
Et ben, c'était très beau, merci de l'avoir choisi. Alors, on en était à expliquer vraiment dans pas mal de détails ce qu'est la neuroplasticité, comment ça fonctionne, etc. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est que ça me paraît extrêmement complexe. Il va falloir des disciplines différentes pour comprendre ces phénomènes, parce qu'il faut les comprendre, ces phénomènes, des disciplines différentes. Et puis, et surtout, on dit que ça se passe comme ci, comme là, mais qu'est-ce qu'on a comme preuve ? Est-ce qu'on a, par exemple, des techniques d'imagerie qui sont capables de montrer ce dont on a parlé ?
Oui.
Voilà, je te laisse la parole.
Merci. Alors, effectivement, les techniques d'imagerie sont extrêmement importantes, et c'est grâce à l'évolution technique des méthodes d'imagerie que l'on a pu progresser dans la connaissance du fonctionnement normal et pathologique d'ailleurs du cerveau et mieux appréhender ce qu'est cette propriété de plasticité qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, à mes yeux n'est pas une simple propriété d'organisation mais une vraie logique de fonctionnement. C'est une logique du vivant. Alors, j'en reviens à la question.
Je te rejoindrai dans la conclusion. Pour ça, c'est important.
Très bien. J'en reviens donc à la question. Et effectivement, les méthodes d'imagerie sont importantes. Les premières méthodes, celles qui nous ont révélé pour la première fois des transformations dans la structure des neurones, ce sont des méthodes de neuroanatomie, où l'on a comparé, par exemple, le cerveau de rongeurs qui avaient été élevés dans des environnements appauvris, c'est-à-dire des animaux isolés, tout seuls dans leur cage, comparés à des animaux placés en groupe d'une quinzaine de congénères ayant la possibilité d'interagir, de manipuler des objets éventuellement. Et ça, c'est une idée qui est apparue dans les années 60-70. Pourquoi ? Parce que un chercheur qui s'appelle Hebb, qui a une influence considérable sur les idées sur la plasticité des synapses, en particulier. Il a été à l'origine d'une théorie sur la plasticité des synapses. Il avait amené chez lui des rongeurs, des petits rats, et ses enfants s'étaient amusés avec ces rats. Il avait constaté des progrès considérables dans les capacités d'apprentissage de ces animaux. Un de ses collègues, Rosenzweig, en Californie, à Berkeley, s'est intéressé à cette question en se disant mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans le cerveau de ces animaux, en particulier les animaux enrichis, capables de capacités d'apprentissage nettement supérieures. Eh bien, il s'est intéressé à la structure macroscopique du cerveau, au poids du cerveau, à l'épaisseur du manteau cortical, du cortex. Il a constaté que chez ces animaux-là, le cortex était bien plus épais, le cerveau bien plus pesant chez les animaux enrichis, par rapport aux animaux appauvris. En utilisant des techniques plus fines, eh bien, il a observé, lui et d'autres collègues comme Bennett par exemple, que cette arborisation des neurones dont j'ai parlé tout à l'heure, qui présente plein de petites épines qui sont les lieux de contact avec les neurones voisins sous forme de synapses, eh bien, ces arborisations étaient bien plus denses chez ces animaux, le nombre d'épines dendritiques bien plus élevé, le nombre de synapses plus élevé. Et en s'intéressant à la biochimie, avec des méthodes pharmacologiques, eh bien, ils ont constaté, lui et ses collègues, que l'efficacité, la libération des neurotransmetteurs était bien plus importante chez les animaux enrichis, et donc l'efficacité, la communication neurochimique accrue. Et notamment dans les régions impliquées dans les apprentissages spatiaux. Donc ça, c'est ce que la neuroanatomie a permis de démontrer de manière absolument flagrante.
Alors, ensuite, juste une petite parenthèse.
Oui.
Je suis en train de t'écouter, je suis en train de... Enfin, je crois qu'il faut le préciser, on est loin donc du déterminisme génétique, au moins comme on l'entendait avant. Il y a peut-être un déterminisme génétique, mais dans la mesure où la relation avec le milieu va favoriser l'expression des gènes.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment fondamental comme notion. Parce qu'en fait, lorsque l'on a démontré l'existence d'une neuroplasticité, on a mis un éclairage complètement différent sur le débat d'idées opposant nature, culture, l'inné et l'acquis.
Hein,
ces débats qui jusqu'au milieu de, même jusqu'au début du XXe siècle, ont été des débats un peu stériles finalement, puisqu'on était sur des positions assez antinomiques, et la neuroplasticité a permis de mieux comprendre les choses, et notamment avec ces études sur la plasticité développementale et l'existence de périodes critiques durant lesquelles des propriétés génétiquement déterminées étaient validées par l'expérience. Prenons par exemple le cas de Hubble et Wiesel, qui ont été, en 1981, qui ont été prix Nobel de physiologie et de médecine. Ils ont démontré que chez des chatons élevés dans un environnement composé uniquement de barres verticales, les neurones dans le cortex visuel primaire ne codent que cette orientation verticale, alors que des animaux élevés dans un environnement normal, composé de différentes orientations, d'objets orientés différemment dans l'espace, chaque neurone dans ce cortex développe une préférence pour une orientation, mais toutes les représentations sont codées, l'ensemble des neurones finit par coder l'ensemble de ces orientations. Or, chez ces animaux-là, durant les premiers mois de la vie, et seulement durant cette période appelée critique, eh bien, l'imprégnation de l'expérience était telle que ces neurones-là ne pouvaient plus développer ensuite de sélectivité pour d'autres orientations. Autre exemple, L.D. Hein se sont intéressés à la coordination visio-motrice, entre la vision et la motricité chez des chatons. Ils ont mis dans une nacelle un petit chaton, et dans l'autre partie de la nacelle, un autre chaton qui lui pouvait marcher sur le sol. Donc un chaton qui se faisait transporter par son congénère qui lui tournait dans une arène composée d'un pattern visuel orienté aussi. Et ce qu'ils ont observé, c'est que l'animal qui pouvait se déplacer, donc mettre en relation ses informations visuelles et ses déplacements, le déplacement de ses pattes, sa locomotion, a développé une coordination visuo-motrice, c'est-à-dire une marche dans un environnement visuel tout à fait coordonné, normal, bien ajusté du point de vue postural, tandis que l'animal qui s'est fait transporter passivement, eh bien lui, il a montré des déficits extrêmement importants de cette coordination visomotrice.
Pas de rétroaction.
Pendant cette période en particulier. D'autres travaux ont montré... Donc ici, il s'agit de considérer que c'est l'expérience qui va, quelque part, valider, mais dans les contextes expérimentaux, négativement, puisqu'elle va finalement orienter une propriété génétiquement déterminée dans une direction figée. Ça, c'est l'aspect négatif de cette plasticité. Parce qu'il faut savoir que la neuroplasticité peut être désavantageuse fonctionnellement aussi. Hein. Et là, c'est un exemple. En revanche, il est possible, au-delà de cette période critique, durant certains épisodes, en faisant bénéficier l'animal d'une expérience sensorielle très saillante, de corriger au moins partiellement ce que cette expérience visuelle a imprégné dans le développement des propriétés des neurones du cortex. Le phénomène d'empreinte, il avait été décrit auparavant par Konrad Lorenz, lui aussi prix Nobel en 1973 de physiologie et de médecine, avec ses fameux travaux sur les oies, où il avait montré ce phénomène d'empreinte, à savoir qu'à la naissance, les oies ont considéré que la première image, enfin, c'est pas les oies qui ont considéré la réalité, oui, c'est que les oies, en ouvrant les yeux, ont vu Conrad Lorenz avant même de voir leur mère, et ont pris Conrad Lorenz pour finalement la figure maternelle, et donc le suivaient un peu partout dans tous ses déplacements, d'ailleurs à une certaine distance. Sauf lorsque Conrad Lorenz prenait un bain dans son étang, et là les petites oies s'approchaient de lui. Il a commencé à réfléchir à cette notion, il s'est aperçu en fait, excuse-moi, je dérive complètement, mais je me laisse emporter.
Non, c'est très intéressant, je t'en prie.
Eh bien, il a émis l'idée, qui semble assez raisonnable, qu'au fond, la distance entre les oies et lui-même était ajustée de telle sorte que l'image sur la rétine de Conrad Lorenz restait à peu près d'une même dimension. Donc, quand Conrad Lorenz n'avait plus que la tête hors de l'eau, les petites oies pouvaient s'approcher. Quand il sortait de l'eau, elles s'éloignaient pour maintenir cette figure maternelle, paternelle, à peu près à la même distance.
C'est
visuellement.
C'est quand même comme idée, ça.
Et donc, ça, c'était le phénomène d'empreinte. Le phénomène d'empreinte pendant l'expérience précoce. Pourquoi nous parlions
de ça ? On a dérivé, on était parti donc des techniques d'imagerie.
Alors, les techniques d'imagerie très importantes. On a parlé de l'anatomie. On peut parler des techniques d'imagerie fonctionnelle, comme l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui s'intéresse à l'activation dans le cerveau chez le sujet qui est éveillé, qui accomplit une tâche de lecture, par exemple, ou qui va réaliser quelque chose avec ses mains, qui va écouter de la musique. Aujourd'hui, on est capable de localiser dans le cerveau les régions qui sont activées dans cette dans cette tâche. Et ça, c'est important. On s'intéresse à la consommation d'oxygène par les neurones. Quand les neurones sont actifs, ils consomment de l'oxygène. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails de la technique, ce n'est pas important. Mais ce qui est vraiment extrêmement important, c'est qu'on est capable de localiser des activités dans différentes régions du cerveau simultanément, et donc d'appréhender la complexité du fonctionnement du cerveau. Dans une tâche qui requiert à la fois d'entendre, de voir, de toucher, de penser, de réfléchir, voire de parler, eh bien, on voit les activations dans toutes les régions correspondantes du cerveau, et même dans les régions associatives, où on voit finalement le fonctionnement global. On revient à une conception globaliste, finalement, du fonctionnement cérébral, concilié avec une localisation préférentielle en fonction de la nature des stimuli qui produisent des activités dans ces régions. Alors ça, c'est l'IRM fonctionnel. Oui. Il y a d'autres méthodes fonctionnelles, comme la magnétoencéphalographie ou l'électroencéphalographie. Là, cette fois-ci, on s'intéresse aux signaux électriques produits directement par les neurones, soit par les neurones, des groupes de neurones. Donc on va recueillir les activités en surface. On utilise là des méthodes qui sont non invasives. La difficulté, c'est de pouvoir ensuite localiser, à partir de ces activités de surface, localiser l'origine dans le cerveau de ces activités évoquées. Ça, c'est une difficulté. En revanche, chez l'animal que l'on peut anesthésier, chez lequel on peut aller avec des microélectrodes, on peut interroger les cellules. Là, on est capable de dire l'activité, elle a lieu ici, et de manière très précise, à quelques millisecondes près, on peut décrire le décours temporel de ces activités. Les méthodes comme la magnétoencéphalographie ou l'électroencéphalographie permettent, si elles ne permettent pas de localiser de manière aussi précise que les enregistrements par microélectrode ces activités cérébrales, en revanche, elles permettent de suivre de manière assez fidèle l'évolution dans le temps de ces activités. Donc ça sont des méthodes d'imagerie extrêmement importantes. Il y a d'autres méthodes d'imagerie cellulaire, j'en reviens à l'anatomie, mais en utilisant des marqueurs spécifiques de certains neurones, on a été capable de montrer par exemple que les neurones, de nouveaux neurones pouvaient être produits, des cellules neurales pouvaient se diviser, se spécialiser en neurones ou en cellules gliales, une autre catégorie de cellules neurales dans le cerveau, avec des marqueurs spécifiques marquant la division cellulaire ou le noyau des neurones, par exemple, ou bien d'autres marqueurs, sont des méthodes immunohistochimiques qui permettent d'identifier le neuromédiateur, les molécules chimiques qui sont utilisées dans la communication cellulaire. Et donc, ça sont des méthodes statiques, dans la mesure où ça se fait sur des coupes de cerveau, mais ça nous permet quand même de comprendre
donc
le fonctionnement des circuits.
C'est pas in vivo ces techniques-là.
Non, ces techniques-là, neurones anatomiques sont des techniques sur tranche de cerveau.
D'accord.
On peut par contre en culture cellulaire observer des phénomènes de plasticité, parce que c'est ça qui est dont nous parlons aujourd'hui. Hein. Mmh. On voit des cellules qui peuvent proliférer, établir des contacts entre elles, et en fonction du bain dans lequel ces cellules sont dans le milieu de culture, en fait, si on met des certains neuromédiateurs ou bien des substances trophiques, eh bien on va voir, c'est les cellules qui vont, si on met des substances trophiques, établir des nouveaux contacts entre elles, et on est capable de filmer ça, et de visualiser à vitesse accélérée. Et donc on voit dynamique de la structuration des réseaux de neurones, leur réorganisation. Et c'est bien sûr en culture, hein,
oui,
c'est tout à fait
sûr,
intéressant.
Oui,
donc
oui,
en
oui.
combinant toutes ces méthodes neuroanatomiques et d'exploration directe de l'activité nerveuse jusqu'aux méthodes d'imagerie fonctionnelle dans le cerveau chez l'homme, on est capable d'appréhender des phénomènes à différentes échelles, niveaux d'organisation du système nerveux. Mmh. Et toute la difficulté consiste ensuite à intellectuellement pouvoir se représenter, établir des liens et pouvoir se représenter le fonctionnement de l'ensemble du cerveau en ayant à l'esprit tous ces niveaux de fonctionnement du cellulaire, voire même du subcellulaire, si on s'intéresse aux récepteurs à tel ou tel neuromédiateur, jusqu'au fonctionnement global dans les activités cognitives les plus élaborées, puisqu'aujourd'hui, on s'intéresse avec l'imagerie en IRM fonctionnelle aux sentiments amoureux, par exemple. On cherche à le localiser en présentant des sujets, des photos de l'être aimé par rapport à des photos d'individus inconnus, ou le sentiment religieux, on est capable, alors avec quand même, et on revient vers la phrénologie et les errances de la phrénologie, avec un risque qui est de confondre le lieu où l'activité est produite avec le sens de cette activité. On confond le où et le quoi et le comment. Et ça, c'est un vrai danger. C'est-à-dire qu'il faut aussi, derrière, des gens qui réfléchissent à travers une réflexion interdisciplinaire, et en construisant des modèles aussi. Les modèles théoriques sont importants. Il y a tout un pan des neurosciences théoriques qui apporte son éclairage. Il faut être capable de développer des modèles qui mettent cette profusion de connaissances ensemble dans un tout cohérent pour pouvoir évoluer et pouvoir produire de nouvelles hypothèses et avancer, même de manière plus audacieuse, je dirais, vers de nouveaux champs de connaissances.
Mais justement, cette technique que tu viens de développer, là, qui part de la vision d'image pour construire quelque chose de cohérent, est-ce que ça ne dépend pas justement de l'évolution des idées? Est-ce que quelquefois, parce qu'une image peut évoquer beaucoup de choses, comment...
c'est vrai que le regard que l'on porte sur les supports visuels de l'information en neurosciences comme dans d'autres domaines, ce regard il est complètement déterminé par des a priori intellectuels, et donc il faut savoir s'en défaire. Effectivement, il faut savoir conserver un esprit critique, il faut savoir ne pas s'enfermer dans des dogmes, et une des manières de ne pas s'enfermer dans des dogmes, c'est justement la confrontation pluridisciplinaire qui a pour effet bénéfique une ouverture d'esprit et un renouvellement du regard sur l'objet de la connaissance.
Très bien. Alors, je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais quand même qu'on parle aussi de ce qu'amène la connaissance de la neuroplasticité dans le domaine de retrouver, par exemple, des fonctions, etc. Quelles sont les techniques utilisées? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, il y a différentes approches. Des approches qui consistent à parier sur les capacités de neuroplasticité du cerveau, qui vont chercher par des stimulations environnementales, sur les thérapies environnementales, à stimuler cette capacité de plasticité pour permettre une amélioration des fonctions et une, une compensation des déficits fonctionnels en cas d'atteinte cérébrale, par exemple. Oui. Ça, c'est une approche. Une autre approche consiste à utiliser, c'est une approche pharmacologique, hein, des substances chimiques qui vont stimuler le fonctionnement de telle ou telle structure particulièrement déficiente. Mmh. Une autre approche plus récente, consiste à essayer de réparer la structure nerveuse endommagée, par exemple par l'apport de nouvelles cellules. On va greffer dans le cerveau des neurones immatures qui vont ensuite, une fois greffés, se différencier et synthétiser, libérer les neuromédiateurs qui sont identiques à ceux des neurones voisins. Et si tout va bien, si cette neuroplasticité se développe normalement, eh bien, ces nouveaux neurones vont pouvoir établir des connexions avec les neurones voisins et s'intégrer fonctionnellement dans des réseaux, dans des circuits fonctionnels, de telle manière qu'une la fonction pourra en grande partie être retrouvée. Donc ça, c'est une approche qui a donné des résultats encourageants, notamment dans le traitement de la maladie de Parkinson, où on greffe dans le striatum des cellules qui vont produire de la dopamine, qui est le neuromédiateur qui va permettre à ces structures impliquées dans la motricité de pouvoir fonctionner normalement. Lorsque l'on combine cette greffe de cellules à une approche pharmacologique en administrant un précurseur de la dopamine, la L-DOPA, eh bien, on va faire en sorte que les patients vont pouvoir retrouver une coordination motrice, perdre en raideur et pouvoir se déplacer à peu près normalement dans leur environnement. Aujourd'hui, ce que l'on ajoute à cette approche, toujours pour le traitement de la maladie de Parkinson, ce sont des stimulations intracérébrales, nos noyaux subthalamiques, qui vont permettre...
De quel ordre
ce sont des stimulations électriques. Donc les électrodes sont implantées à demeure dans le cerveau, dans cette structure que j'évoquais, et des micro-courants vont être envoyés, et c'est le sujet lui-même qui va pouvoir générer ces stimulations électriques. Et l'effet est absolument spectaculaire dans la mesure où le patient qui est dans un état de torpeur, de raideur, dans l'incapacité de se déplacer, s'il se stimule, auto-stimule électriquement, eh bien, il va pouvoir se lever, commencer à marcher normalement, de manière absolument coordonnée, produire des gestes sans tremblement.
Ce sont des techniques largement utilisées ou
Utilisées de plus en plus couramment, effectivement. Alors, d'autres techniques, notamment dans le cadre de lésions de moelle épinière, permettent aussi de greffer des cellules. Par exemple, des cellules qui sont des cellules qui vont permettre la réparation de la gaine des neurones, permettre de la repousse des neurones dans la moelle. Mmh. Et ces cellules sont prélevées dans la muqueuse nasale du sujet. On va donc greffer, on va prélever de la muqueuse nasale ces cellules, les mettre en culture, les purifier, les faire se développer, les injecter, les transplanter dans le site de la lésion. Et ces cellules-là vont pouvoir constituer comme des petits canaux qui vont permettre le guidage de la repousse des axones qui ont été endommagés par la lésion et permettre ainsi au moins en partie une réparation des voies nerveuses qui ont été endommagées, sachant que quand il y a une lésion de la moelle épinière, il y a un développement des cellules gliales qui vont former une barrière qui va s'opposer à cette repousse neuronale. Donc cette stratégie permet... Elle a été validée chez l'homme par des essais cliniques qui montrent une petite amélioration du contrôle sphinctérien en particulier.
Oui.
Mais on est loin de ce que l'on pourrait espérer si cette stratégie pouvait être appliquée dans les jours qui suivent ou dans les premières semaines qui suivent l'accident. Oui. Mmh. Ces essais ont eu lieu chez des personnes qui avaient eu un accident de la moelle épinière depuis plusieurs années. Donc une leçon à retenir d'ailleurs à propos de la plasticité, c'est que les méthodes de rééducation fonctionnelle doivent intervenir le plus tôt possible après la lésion nerveuse et les déficits fonctionnels. Cette rééducation va devoir solliciter la neuroplasticité, permettre la mise en jeu d'interaction avec le milieu et donc de recalibration de toutes les fonctions, leurs ajustements, pour permettre d'optimiser finalement les ressources neuronales, les ressources de plasticité.
Bien, il nous reste 3 minutes. Ouais. Alors 3 minutes pour conclure. Alors d'abord, ce que tu viens de dire sur cette avancée est très très intéressant. Mais est-ce qu'il y a des limites à ça? Est-ce que non, on peut penser qu'avec les progrès, on pourra aller beaucoup plus loin?
Alors, les limites, on peut voir des limites en termes éthiques, dans la mesure où, par exemple, aujourd'hui, on parle de l'individu augmenté.
Oui.
C'est-à-dire l'individu équipé d'un certain nombre de dispositifs qui peuvent être des électrodes de stimulation, mmh. dont j'ai parlé tout à l'heure, non pas en vue de réparer une structure qui est déficiente ou d'améliorer le confort de vie d'une personne qui présente des troubles fonctionnels, mais pour augmenter les capacités normales de l'individu.
C'est ça. Hein,
ou adjoindre des électrodes de stimulation électrique dans différentes régions du cerveau, mmh. ou bien même faire en sorte de délivrer des substances de façon chronique pour pouvoir booster les performances sensorimotrices, cognitives, etc.
Tout à fait. Tout.
Donc on va vers un homme augmenté, évidemment avec la difficulté que l'on imagine, ces techniques coûteront extrêmement cher. Donc
c'est pas pour tout le monde.
C'est pas pour tout le monde, on va créer des disparités. Peut-être faire en sorte que la nouvelle normalité sera l'individu augmenté, et on imagine très bien les difficultés sociales, d'ordre moral et éthique que cette perspective d'augmenter les capacités chez l'homme amène dans le fonctionnement de la société, dans les relations humaines.
Tout à fait. Est-ce qu'il reste encore une petite minute pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, cette nouvelle façon de voir cette plasticité nous donne un autre regard sur l'organisation de l'homme et de ce qu'il est. Ça c'est.
Alors c'est important effectivement d'intégrer le fait que le cerveau est en constant remaniement tout au long de la vie. Oui. Il n'y a aucune raison de considérer qu'au cours du vieillissement, par exemple, il n'y a plus du tout de neuroplasticité. On sait au contraire qu'il y a toujours de la neuroplasticité. On a même largement surestimé la mort neuronale. Mmh. La capacité des neurones, les neurones s'atrophient au cours du temps, au cours du vieillissement, mais la capacité à établir un contact, elle est maintenue, elle se développe, elle permet à des circuits neuronaux de se maintenir ou de se développer. Et on parle même de réserve neuronale, c'est-à-dire que il faut placer la neuroplasticité dans une perspective de vie entière. Mmh. On peut développer une réserve neuronale qui va protéger les individus contre la démence sénile, par exemple. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est absolument avéré. Donc, l'individu qui est très actif cognitivement, socialement, qui a des activités de loisirs, qui physiquement s'implique énormément, il va développer des réserves neuronales qui vont le protéger en cas d'atteinte neurodégénérative.
Et bien voilà, on va terminer sur une belle image et de bonnes perspectives.
Et on parle de vieillissement réussi d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Christian, je te remercie beaucoup. J'espère que l'année prochaine, il nous fera le plaisir de revenir encore.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.